When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Eurosport Confidential, le podcast d'Eurosport qui va vous faire partager les souvenirs des grands champions. Et aujourd'hui, encore un invité de marque, un champion du monde, un champion olympique, je vais vous le présenter dans quelques instants. Juste pour les petits nouveaux qui découvriraient cette émission, je vous rappelle très rapidement le principe. Trois parties dans Eurosport Confidential, il y aura d'abord la rétro perso dans laquelle notre invité évoquera un moment fort de sa carrière. Ce sera ensuite le jour où, et cette fois, ce n'est plus le sportif, mais le fan de sport qui s'adressera à vous et qui évoquera un moment de l'histoire du sport qu'il a particulièrement marqué. Il nous dira pourquoi. Et enfin, dans Mon Idole, nous évoquerons avec lui la personnalité sportive pour laquelle il a une admiration toute particulière. Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor à la Porte d'Auteuil de Paris, notre partenaire que je remercie encore pour son accueil aujourd'hui. Et je vais vous présenter maintenant notre invité. Il est né en 1988 en Guadeloupe. Il est escrimeur, il est champion olympique, il est depuis cet été champion du monde. Il est épéiste, c'est monsieur Yannick Borel. Bonjour Yannick.
Bonjour Laurent.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Tout va bien ?
Merci, ça va, merci.
Petit bobo au poignet toujours
ou toujours, mais ça avance. J'ai retiré la telle, donc je suis plus immobilisé. Maintenant, je reprends la rééducation.
Donc, il y aura pas de problème pour la prochaine saison.
Non, normalement, une fois la rééducation terminée, donc d'ici 2 mois, je devrais reprendre tout à fait normalement.
Avec un titre de champion du monde à défendre, donc.
En tout cas, je vois pas ça vraiment comme ouais. Ça, moi. Je vois plutôt un nouveau titre de champion du monde à gagner.
À aller chercher,
ouais, c'est ça.
Alors, on va parler de tout ça et on va commencer tout de suite donc avec la première partie, la rétro perso. Alors, dans la rétro perso, Yannick, je m'attendais, on aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez d'évoquer, bah, par exemple, ce titre de champion du monde, votre premier titre en individuel cet été, ou peut-être le titre olympique par équipe il y a 2 ans à Rio. Mais vous n'avez pas choisi ça, et c'est assez intéressant. Vous avez choisi de revenir 6 années en arrière. On est à la fin de l'hiver 2012.
Tout à fait.
Et vous êtes en course pour la qualification pour les Jeux de Londres. Et vous allez vous qualifier lors du Challenge Monal, comme on l'appelait avant, qui s'appelle maintenant le
SNCF Réseau.
SNCF Réseau, voilà, qui a lieu donc tous les ans à Coubertin, à Paris. C'est la grande manche de Coupe du Monde pour les épéistes en France. Et ce jour-là, donc Yannick, vous vous qualifiez pour la première fois pour les Jeux Olympiques. Alors pourquoi avoir choisi d'évoquer ce moment-là et pas vos plus grands moments de gloire de votre carrière, dont un est tout récent ?
Parce que c'est un moment très particulier pour moi, dans le sens où j'étais pas attendu peut-être déjà à ce niveau-là. J'étais pas attendu pour me qualifier devant de grands noms déjà à l'époque de l'épée. Je pense à Ulrich Robéry, à Jean-Michel Lucenay, Jean-Michel avec qui on s'est tiré la bourre jusqu'à la fin, Ronan Gustin, enfin, voilà, et Gauthier Grumier qui était déjà en fait qualifié. Et à cette compète, il restait une place pour, au final, 3 tireurs. Donc, j'espérais défendre mes chances jusqu'au bout et faire le nombre de points qui faisait que ceux qui me poursuivaient, entre guillemets, ne puissent plus me passer devant. Malheureusement, je m'incline au deuxième tour. Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi ce moment ? C'est parce qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent. Au début, je suis motivé, déterminé. Je passe le premier tour. Le deuxième tour, je m'arrête. Très déçu. Ensuite.
Est-ce que vous vous souvenez jusqu'où vous deviez aller dans la compétition à Coubertin ce jour-là pour être sûr d'être qualifié et de ne pas dépendre des autres ?
Je crois que je devais me qualifier au moins pour les quarts de finale. Et une fois en quart de finale, je mettais mes concurrents, entre guillemets, assez... Enfin, je bloquais le score pour être devant eux.
D'accord. Voilà. Alors, il faut se souvenir qu'en 2012, suivant la rotation des épreuves par équipe, il n'y avait pas l'épée par équipe pour les hommes à Londres. Donc, en gros, c'était la qualif pour l'individuel ou rien du tout.
C'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était 1, 2 ou 0 français, en fait. Et Gauthier avait déjà fait le nécessaire pour se qualifier avant cette compète. Et lui, en plus, il allait jusqu'en quart de finale. Donc, il était sûr et certain. Et moi, en fait, j'ai eu la première place européenne. C'est-à-dire que je ne me suis pas qualifié par le classement mondial. Je me suis qualifié par le classement européen. Il y en avait deux places. Donc, moi, j'ai pris la première place européenne. Et donc, j'avais des poursuivants français et européens à la fois.
Ah, donc ça ne se jouait pas contre
non,
contre
c'est,
vous
c'est
et
c'est pour
d'autres
ça que c'était hyper
français.
Stressant. C'est que ça se jouait entre les Français et les Européens. Pas les autres nations, parce que, voilà,
ouais,
comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'était d'autres quotas. Et donc, je m'incline en tableau de 32. Au moment où je quitte la piste, mon entraîneur me dit « Ne t'inquiète pas, j'avais tel concurrent qui avait perdu aussi. » Mais j'étais profondément déçu par ma performance. Et donc, je n'ai pas prêté vraiment attention. Un peu après, en plus, j'étais avec mon père ce jour-là parce qu'il était venu m'encourager, parce qu'il savait aussi l'importance qu'elle avait, cette compétition, pour la qualification aux Jeux Olympiques. Je suis dans les gradins avec mon père et puis Jean-Michel avance dans la compétition. Il se retrouve en quart de finale. Les autres poursuivants, je crois, étaient tous éliminés.
Donc, il ne restait plus que
Donc,
Jean-Michel
Lucenay. Il ne restait plus que Jean-Michel Lucenay pour potentiellement me passer devant.
Donc là, c'est un
devant.
Peu particulier parce que celui qui peut vous priver des Jeux, c'est...
C'est aussi un copain, ouais.
Voilà.
C'est aussi un copain, donc c'est très particulier. Ouais.
Et
c'est...
c'était déjà Jean-Michel quelqu'un qui était bien installé en équipe de France. Lui,
aussi,
hein.
Oui.
Il était,
aussi, il avait,
c'était
il
un
avait
des piliers
déjà...
du groupe.
Bien sûr. Bien
il
sûr.
Avait été, je crois, médaillé de bronze à Paris en 2010.
Tout à fait.
Il avait été plusieurs fois champion du monde
par
équipe, puisque les Français, de toute façon, avaient tout gagné depuis 2003,
2004.
2004.
Ouais, 2004, 2004.
D'accord. Donc, avant cette compétition, d'ailleurs, vous aviez échangé avec Jean-Michel ou chacun reste dans son coin?
Non, après, c'était tellement... C'est toujours, de toute façon, avant une telle compétition, en plus en France... On a tendance à... On s'entraîne ensemble toute la semaine jusqu'au mercredi ou jeudi. Et ensuite, on est un peu chacun de notre côté. On se prépare. On se prépare aussi. Voilà, on rentre chez soi. On prend le temps de rester avec la famille, de se préparer d'une certaine façon. Et on arrive le jour J sur la compétition. Donc, on ne s'est pas trop vu à ce moment-là. Contrairement aux Coupes du Monde à l'étranger, où des
où
fois,
là, vous passez
on
du temps
dort
ensemble.
ensemble. Enfin, on dort dans la même chambre. Donc c'est vraiment différent.
Et finalement, c'était pas plus mal que ça se passe à Paris. Ça vous avait peut-être permis de rester chacun dans votre bulle.
Aussi, ouais, je pense que c'était pas mal. Et pour revenir à la qualification, Jean-Michel se retrouve à égalité à 14 partout en quart de finale. Et je me souviens être à côté de mon père à ce moment-là et je me dis, je peux pas regarder. En fait, j'ai pas réussi à regarder. Je pouvais pas lui souhaiter de perdre ni de gagner. Donc, je me suis retourné.
Vous attendez de voir ce que ça
Voilà,
donne.
J'ai tourné le dos. La touche s'est disputée. Et là, mon père me regarde. Il me dit, Yannick, tu vas aux Jeux Olympiques. Et voilà, c'est pour ça. Et puis, donc, le soulagement. Et le lendemain, on avait le par équipe. Donc, je n'avais pas pu me libérer de ce poids. Mais je me souviens que j'avais eu des crampes d'estomac. Enfin, j'ai eu toutes sortes d'émotions ce jour-là. C'est pour ça que ça m'a marqué et que ça c'est le souvenir dont je voulais vous parler aujourd'hui.
C'est la première grande émotion de votre carrière?
Je pense que ouais, découvrir cet univers qui me faisait déjà rêver, les Jeux Olympiques, aller dans un village olympique, participer à la cérémonie d'ouverture, voir la flamme olympique s'allumer devant moi, ça fait partie des grands moments de ma carrière, ouais, tout à fait.
À quel moment au cours de cette saison, d'abord, est-ce qu'au début de la saison, vous avez 23 ans à l'époque, je crois, c'est vraiment l'objectif, les Jeux, pour vous, ou ça vous paraissait, sinon inaccessible, en tout cas compliqué par rapport à la place qui était la vôtre dans la hiérarchie avant cette saison 2011-2012?
Ça me paraissait compliqué, ça me paraissait vraiment, vraiment difficile, mais pas impossible. Donc, en plus, je commence pas très bien la qualification aux Jeux Olympiques. Les premières compétitions, je suis pas trop dans le coup. Et progressivement, je deviens très régulier. Donc très régulier dans les 16 meilleurs mondiaux et dans les 8 meilleurs mondiaux. Du coup, je me retrouve bien placé. Je me retrouve en concurrence avec les meilleurs Français. Et très rapide. En fait, en janvier, donc 2 mois avant, je fais troisième à une Coupe du Monde. C'est mon premier podium.
Premier podium en Coupe du
Et ce
Monde, ouais.
podium-là me fait passer deuxième Français, donc derrière Gauthier. Et là, en fait, je me rends compte que
Que là, ça devient
voilà,
vraiment
la qualification, elle
possible.
prend fin bientôt. Et au fur et à mesure, je vois que je suis plus que dans le coup. Donc je me dis, bon, ben, c'est parti. Tu dois t'accrocher jusqu'au bout pour te qualifier.
Les Jeux, c'était un rêve. Vous avez commencé l'escrime en Guadeloupe, je crois que vous aviez à peu près 10 ans, quelque chose
C'est
comme
ça.
ça. C'est quelque chose qu'on a en tête quand on est petit ou ça vient progressivement. C'était quoi les Jeux pour vous?
Pour moi, c'est venu progressivement. C'était pas dans ma tête dès que j'ai commencé l'escrime. Ce qui a par contre toujours été dans un coin de ma tête quand j'étais en Guadeloupe, c'est de porter la tenue de l'équipe de France, c'est-à-dire la veste et le pantalon d'escrime avec les flammes je crois qu'on dit ça, on dit les flammes de l'équipe de France, donc bleu, blanc, rouge, avec le drapeau. Aujourd'hui, c'est un drapeau. Mais j'ai toujours voulu avoir cette tenue et la mériter. C'est-à-dire pas juste aller chez un fournisseur et me l'acheter. Je voulais être qualifié en équipe de France, donc être sélectionné par l'entraîneur national et représenter la France dans une grande compétition, un grand championnat, quel qu'il soit. J'ai réussi à le faire dans mes catégories juniors
Votre
déjà.
première participation à un championnat du monde en senior, c'était juste l'année avant les Jeux, non?
C'était l'année avant
En
les Jeux, ouais,
2011?
tout à fait. En fait, en 2010, il y a les championnats du monde à Paris, au Grand Palais, un événement spectaculaire. C'était vraiment magnifique et esthétique, très esthétique.
Ouais,
Et
c'était superbe, ouais, je m'en souviens.
j'avais assisté à ça dans les gradins. Hein. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, je veux à tout prix être sur la piste, quoi. Et ça a fait comme un déclic. J'étais dans les tribunes. Et je regarde mes coéquipiers tout simplement. Gauthier est arrivé en finale, Jean-Michel en demi-finale. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit non, faut que j'y sois, faut que moi aussi je sois sur une piste au championnat du monde.
Vous
Et
étiez déjà, vous étiez à quel niveau dans la hiérarchie française à ce moment-là en 2010?
je pense que j'étais dans l'équipe B, c'est-à-dire dans les quatre.
Qui était
Il y avait
derrière
voilà il y
le...
avait voilà les quatre qui étaient derrière, il y avait les quatre devant, donc
Donc dans l'antichambre, on va dire,
voilà, c'est
quoi.
ça. J'étais déjà un peu avant, mais mine de rien, on peut y rester longtemps dans cette antichambre et j'avais pas envie, donc ça m'a été vraiment utile et ce déclic m'a permis, je pense, de peut-être mieux préparer ma saison. Je me souviens que j'avais passé tout l'été à me préparer physiquement déjà.
Et vous êtes champion du monde par
Et je suis
équipe.
champion du monde
Voilà,
par
c'est
équipe,
le
champion
premier
d'Europe par
titre.
équipe également, ouais.
Alors les Jeux, pour un escrimeur, le championnat du monde, c'est évidemment quelque chose de très très important. Être champion du monde, vous l'êtes aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est en tout cas ce jour-là le meilleur dans son arme.
C'est vrai.
Mais les Jeux, peut-être encore plus pour un sport comme le vôtre, je pense quand même que c'est puissance 10.
Les Jeux, c'est l'équivalent, je pense, de la Coupe du Monde pour les footballeurs. Parce que c'est espacé de 4 ans. Alors, pourquoi les Jeux, c'est au-dessus pour nous? C'est aussi parce que c'est une compétition prestigieuse. C'est-à-dire que ça parle à tout le monde, les Jeux Olympiques. Même le passant, celui qui ne s'intéresse pas au sport, l'année des Jeux Olympiques, tout le monde s'intéresse
Et puis
aux
tout le monde
résultats des
s'intéresse
Français.
à tous les sports, quoi.
Et tout le monde s'intéresse à tous les sports, et notamment le nôtre. C'est le moment où on a le plus de visibilité de par le monde, mais aussi chez nous. C'est-à-dire que n'importe quel supporter français qui aime le sport va allumer sa télé. S'il tombe sur de l'escrime, il va encourager, même s'il ne comprend pas ce qui se passe, même s'il ne comprend pas qui touche. Mais si on lui dit que c'est un Français, ben, il est à fond derrière son écran. Et cet élan populaire, cet entrain, on le retrouve qu'à ce moment-là. Mais même l'ambiance d'une salle olympique, on ne le vit pas ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se rapproche un peu à Coubertin parce qu'on a cette ferveur chauvine qui prend le stade quand il est rempli. mais des encouragements comme j'en ai reçu aux Jeux Olympiques en 2012 ou en 2016 quand on gagne par équipe. Non, j'ai jamais vécu ça dans aucun autre championnat. Donc ça fait que les Jeux, c'est unique, quoi.
Ouais.
C'est une compétition vraiment unique et on a l'impression que c'est réservé à très peu de personnes, quoi. C'est un truc très 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 prestigieux et sacré en
Et
fait.
ça l'est. Alors, en 2012, pour ces premiers jeux en ce qui vous concerne, d'abord, est-ce que vous aviez une frustration de ne pas pouvoir tirer par équipe, sachant qu'en plus, je n'allais pas dire que c'était une médaille assurée, mais dans la mesure où ça faisait quasiment une décennie que l'équipe de France gagnait tous les titres olympiques, Athènes, Pékin et tous les championnats du
Ouais.
monde, c'est une frustration ou le fait de pouvoir tirer pas en individuel, c'était suffisant, entre guillemets, pour vous?
Non, c'était une frustration. Ça a été vécu comme une frustration un peu par tout le monde et moi aussi, notamment. Je vais pas vous mentir, mais je pense que c'était une erreur de le vivre comme ça. C'était quand même des Jeux Olympiques. On fait un sport individuel avant tout. Et je pense qu'on aurait plus dû le prendre comme un défi et l'accepter. Du coup, on n'a pas fait aussi bien qu'auparavant, puisqu'on fait deuxième au championnat du monde de 2012 à Kiev.
C'était
Et on
bizarre
revient.
d'ailleurs ces championnats du monde parce que finalement c'était des championnats du monde avec peu d'épreuves, avec.
C'est vrai, c'est pas la même ambiance.
Ouais.
Et c'est vrai que des fois, quand on est au championnat du monde et qu'on a toutes les nations, qu'on a toutes les armes, que ce jour-là, c'est le jour de ta compétition individuelle ou par équipe, t'as cette ambiance dont tu t'es imprégné et qui fait que ça monte doucement. Et puis le jour J, ben, t'es concentré, tu sais pourquoi t'es là et tout. Et en fait, là, on savait que c'était, entre guillemets, c'était un objectif quand même dans la saison, mais un sous-objectif parce que ce qui comptait vraiment,
C'était les
c'était
jeux.
les Jeux. Et du coup, ben, je pense que même en faisant deuxième, on passe à côté. Et nos Jeux Olympiques, on les a ratés. Personnellement, je m'arrête en quart de finale. C'était pas un mauvais résultat dans le sens où c'était mes premiers Jeux Olympiques, c'était encourageant, mais en fait, les Jeux Olympiques, quel que soit le résultat, si t'as pas de médaille, ben,
Oui.
c'est
C'est la
raté.
médaille ou rien.
Voilà,
Mais
c'est ça,
c'est vrai
c'est
que
ça.
bon, ces jeux, on s'en souvient, avaient été, ça avait été un peu
Catastrophique,
la
bien
catastrophe
sûr,
pour
bien
l'équipe de
sûr.
France d'escrime, qui était historiquement, c'est le plus gros pourvoyeur de médailles depuis la création des Jeux modernes en 1896. Et là, le zéro pointé. Donc évidemment, quand on est. Vous êtes sous la lumière, vous les escrimeurs, vraiment à chaque JO,
Oui,
parce
c'est
que.
vrai. On attend des médailles de nous. Et même nous sportifs, nous escrimeurs, nous compétiteurs, qui avancent aussi cet héritage, on se sent responsable de ce qui va de tout ça. Et on se met la pression. Et en fait, on est complètement passé à côté. Et ça a été très dur pour tout l'effectif qui était présent au JO de 2012. Mais je pense que ça en a forgé beaucoup. Pour revenir plus fort et ne pas se louper une deuxième fois. Donc
Bon,
c'est voilà, c'est une expérience
vous aviez
difficile.
été quand même un des meilleurs en individuel, en atteignant
Un des
l'écart.
meilleurs, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que non, il y a que la médaille qui compte. Et tant mieux. Enfin, tant mieux, oui, c'est de l'élitisme. On fait du haut niveau, on n'est pas là pour participer, hein, comme disait Coubertin.
Mais malgré tout, ces premiers jeux, au-delà du fiasco pour l'escrime française et de votre déception de ne pas avoir une médaille, tous les à côté, vous avez tout découvert à
Bien
Londres.
sûr, et on a envie de revivre. Quand on a vécu ça une fois, on connaît pas, on entend parler, on voit des images à la télé, mais on l'a pas vécu. Et tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. C'est très particulier. Il y a une ambiance, qui règne dans le village qui est très particulière parce que tout le monde est là pour la même
Ouais, on
raison.
profite des jeux quand même ou pas?
On profite des jeux. On profite des jeux une fois qu'on a accompli son travail.
D'accord. Vous, vous
Ouais,
étiez en première semaine, hein. L'escrime, c'est la
voilà, c'est
première
ça.
semaine.
Et donc, je me souviens enfin, moi, j'ai même voulu partir assez vite. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je suis même pas resté
Ouais,
jusqu'à
donc
la
en
fin.
fait, non, vous n'avez pas vraiment.
Non.
À partir du moment où vous étiez, où vous n'avez pas eu de médaille, où c'est fini pour vous. Finalement, vous n'avez pas tant envie que ça
De
de
rester,
profiter, quoi.
non, de rester, de... C'est dommage, hein. Je me dis peut-être qu'un jour, je me dis pourquoi je suis pas. Mais non, aujourd'hui, je me dis. J'y vais, j'ai une mission, en fait, voilà, je me sens comme, voilà, comme un soldat qui a une mission à remplir, et puis il remplit sa mission, il rentre à la maison. Si ça se passe bien, tant mieux. En 2016, à Rio, on fait médaille d'or par équipe, on est champion olympique. On n'a pas pu rester non plus parce qu'on avait prévu de rentrer un peu plus tôt, de base. Ça, c'est peut-être un peu dommage.
C'était plus loin aussi.
Oui, parce que là, notre épreuve était le 14 et ça nous aurait fait rentrer le 28 ou le 30. Donc, on devait rester 15 jours de plus.
Mais est-ce que ces Jeux de Rio, vous les avez vécus différemment, profiter si. Peut-être un peu plus, je ne sais pas où...
Mais tu as mis moins de pression déjà. C'est-à-dire, oui, c'est les Jeux Olympiques. Mais si tu te dis, c'est les Jeux, il ne faut pas que je me rate, tu vas te louper. Il faut aussi prendre ça avec un peu de recul, profiter d'être aux Jeux Olympiques. Et on a même pu sortir du village. Et je pense que ça nous a fait du bien aussi de respirer un peu, d'aller manger à Rio. On était juste allé manger à Rio de Janeiro, mais ça nous a fait du bien de sortir du village, de sortir de ce contexte. En fait, on se retrouve dans une bulle. Et c'est des Jeux Olympiques, donc ça peut être n'importe où, mais t'es dans une bulle, en fait. Et là, de sortir, ça nous avait fait du bien. Et j'avais une vidéo de mes proches qui m'ont encouragé, qui m'ont fait un message juste avant les épreuves. Donc toute ma famille, ils avaient pris leur téléphone et il avait compilé un peu toutes les vidéos. Et ça rebooste, ça donne de l'énergie, ça te fait bien aussi voir que l'événement, il est particulier. Et c'est des bons souvenirs. Au final, c'est des bons souvenirs.
Alors, dernière question avant de finir cette première partie. En 2016, à Rio, bon, ça ne se passe pas super bien en indiv. En revanche, il y a cette compétition par équipe. Alors, vous décrochez l'or. Et vous, à titre personnel, vous faites une compétition exceptionnelle par équipe. Et vous portez vraiment l'équipe. La satisfaction individuelle, elle s'ajoute, j'imagine, à la joie du titre collectif quand même.
Bien sûr. Après, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques. En individuel, deux fois je m'arrête en quart de finale. La deuxième fois c'est dur parce qu'on se dit, j'aurais aimé faire mieux déjà. Parce que on sait ce que c'est et on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une équipe forte, mais on peut pas prédire une victoire. Il faut aller la chercher. Donc une fois ça digéré, je me dis bon, j'ai pas le temps de me morfondre et de pleurer sur mon sort, j'ai encore une chance de ramener un titre, en fait, de ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et j'avais le souvenir très clair dans ma tête d'avoir vu l'équipe de France en 2008, DP Homme, championne olympique. Je l'avais vu sur la télé en Guadeloupe. Donc j'avais aussi envie, c'était aussi un défi, c'était un des objectifs de ma carrière, c'est-à-dire de remporter ce titre olympique avec l'équipe de France. Et j'étais survolté et ça s'est traduit sur la piste, et même mes proches m'en ont voulu. Ils m'ont dit mais t'aurais tiré comme ça en individuel, c'était la même chose, quoi. Voilà, donc bon, avec des si, oui, mais c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas pu avoir cette même esprit de, comment dire, de revanche entre guillemets, qui soit pas venu plus tôt. Et j'étais un peu plus dans le contrôle, on va dire, en individuel. Et là, j'étais libéré, en fait. J'avais vraiment envie de montrer que je pouvais être champion olympique. Je me souviens qu'entre la demi-finale et la finale, il y avait peut-être 5 ou 6 heures d'attente. On est sorti de la salle, on est allé manger une glace. C'est peut-être pas toujours conseillé, mais là, ça nous a fait du bien. On est rentré. Et sans se parler, on savait ce qu'on avait à faire. Et je me souviens que voilà, on s'était parlé avec le regard, quoi, les yeux. En se regardant, on savait que voilà, on avait confiance en Jean-Mich aussi, qui était remplaçant. On savait qu'il aurait très bien pu être titulaire et que le résultat était le même. Donc on y est allé.
Il avait été très 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 performant lui aussi.
Voilà, lui aussi, et on y est allé. Et puis voilà, c'était une journée fantastique, mais. Ouais, à titre personnel, j'étais dans tous mes états, mais en même temps, j'avais réussi à tout canaliser pour mettre mon énergie à 100% dans ce que je faisais, quoi.
Ok, bon, on va s'arrêter là pour la première partie. Et maintenant, dans le jour où, on va continuer de parler des Jeux Olympiques. Et c'est le Yannick Borel, téléspectateur, qui va vous faire partager ses souvenirs. Le jour où la deuxième partie d'Eurosport Confidential, toujours avec Yannick Borel, le champion du monde d'escrime à l'épée. Alors Yannick, on continue de parler des Jeux Olympiques. On n'est plus en 2012, cette fois on est en 2008. Donc vous avez quoi, 19 ans, pas encore tout à fait fêté vos 20 ans ?
Pas tout à fait, ouais. 20 ans, pas loin.
Voilà. Ouais. Les Jeux sont à Pékin cette fois.
Tout à fait.
Vous êtes en Guadeloupe, chez vous. Et vous avez voulu parler de ce qui est quand même, en tout cas en termes d'impact médiatique, et je pense même auprès du grand public, probablement l'événement majeur des Jeux Olympiques, la finale du 100 mètres, le premier titre du Usain Bolt. C'est un grand souvenir. Alors, c'était à quelle heure en Guadeloupe ? Parce que en France métropolitaine, on avait pas mal de décalage horaire aussi, mais en Guadeloupe, ça donnait quoi ? Vous vous souvenez ?
Je me souviens pas trop. J'ai pas ce souvenir-là. J'étais vraiment dans la course. J'étais à fond dans le truc en fait. J'avais suivi toute la journée de Bolt, et parce qu'on en parlait comme un phénomène. Et ça s'est traduit en finale, quoi. En finale, il a été monstrueux. Je crois qu'il met 20 mètres au deuxième.
Ouais, c'est... Usain Bolt, à l'époque, a 21 ans. Il vient de devenir recordman du monde du 100 mètres pour la première fois. Je crois que c'était fin mai à New York. 9,72, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il était le grand favori de cette finale du 100 mètres. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, c'est ce jour-là à Pékin que vraiment le phénomène Bolt est né. Parce qu'entre battre un record du monde à New York au mois de mai et battre le record du monde pour être champion olympique aux Jeux, c'est évidemment incomparable.
Et c'est tout le truc, quoi, l'ambiance qu'il y avait dans le stade. C'est-à-dire que c'est un stade rempli de, je ne sais plus combien de places il y avait, mais 60 000 ou,
ouais, 80, même, oui, je pense
ou 80 000. Et au moment où ils se mettent en position pour partir, le stade, il est complètement silencieux. Et ça, c'est, on se dit, ben, comment on fait pour gérer ce genre d'événement ? Se couper complètement de tout ça, et au moment où le coup de feu y part, tout le monde explose dans le stade. Et Bolt, en 9 secondes, c'est...
69.
Il n'est pas encore fait... Ouais, c'est 9,69. Ouais.
Et 9,58 l'année d'après à Berlin. Ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, il prend un départ qui était correct pour lui, parce que Bolt, c'est un très grand gabarit.
Ouais, il partait pas vite.
Le départ, ça n'a jamais été sa très grande force. Et après 30 mètres, il n'est pas encore en tête. Et à partir de 30-40 mètres, là, on voit vraiment qu'il commence à dérouler ses grands compas. Et là, la vitesse qu'il dégage par rapport aux autres, c'est assez incroyable. Ouais.
C'est facile en fait. Quand tu le regardes, tu te dis, ben, moi aussi je pourrais courir vite. on se voirait même courir plus vite que lui, quoi. Mais non,
oui,
non.
On n'a pas cette impression de... Pas de souffrance, mais c'est vrai que le sprint est un effort très violent. Le 100 mètres, c'est quelque chose de... C'est une explosion. Et lui, on a l'impression que ouais, ça file tout seul, quoi.
C'est ça. Et on lui avait même reproché, je crois. On lui avait dit qu'il avait ralenti.
En fait, il écarte les bras à 20 mètres de l'arrivée. Il sait qu'il a gagné. Et c'est vrai qu'il a, il pense pas au chrono à ce moment-là.
Non, je pense pas. Je pense qu'il sait qu'il est champion olympique et il savoure, quoi. Il savoure, mais il pense pas à se dire, bah, je vais tout défoncer et puis mettre un record de malade mental. Non, je pense qu'il est dans son moment. Comme je l'ai dit avant, il y a 80 000 personnes qui le regardent, plus tous ceux qui regardent à la télé. Donc ça fait des milliards en fait, des millions et des millions de personnes. Et il est champion olympique. Et je pense que c'est la discipline reine, hein, des Jeux Olympiques, c'est le 100 mètres, l'homme le plus rapide du monde.
Oui, c'est la course dont tout le monde se souvient de toute façon.
Donc on a beau lui reprocher ça, mais c'était un moment magique.
Ouais, je crois qu'il y avait une étude, je crois que c'était des scientifiques danois qui avaient analysé sa course et qui avaient dit que s'il n'avait pas écarté les bras et... entre guillemets, couper son effort, il aurait pu faire entre 9,55 et 9,61. Et c'est exactement
ce qu'il fera l'année d'après,
puisqu'il va faire 9,58 à Berlin. Après, c'est vrai qu'en athlétisme, je pense que tous les athlètes nous le disent. C'est-à-dire que le chrono ou la performance à la perche ou à la longueur, importe peu au jeu, entre guillemets. C'est vraiment ce qui compte, c'est le résultat, c'est d'être médaillé d'or. C'est
d'être je pense qu'il aurait pu être, on peut être champion olympique, je pense, du 100 mètres en 9,80. Mais ce jour-là, il était juste trop fort, trop fort, trop rapide.
Bolt, c'est un sportif que vous avez, au-delà des Jeux de Pékin, que vous avez suivi, que vous avez continué d'admirer ?
Bien sûr, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. J'ai vu quelques documentaires sur lui. En plus, c'est proche de, on va dire, proche de moi parce que c'est un Antillais, il vient de la Jamaïque et on peut s'identifier plus facilement. Et lui, il a toujours tenu à continuer à s'entraîner sur son île. Voilà, je pense que c'est une chance. Je pense que c'est une chance et tous ceux qui peuvent dans leur sport le faire, allez-y. Ça, en plus, ça montre qu'il n'y a pas de barrière, que ça n'empêche pas d'être le meilleur du monde. Donc non, c'était vraiment très inspirant. Bolt.
Est-ce que vous avez eu la chance de le croiser, de l'apercevoir à Londres ou à Rio ?
Les deux fois. À Londres, il a voulu aller manger au self, mais je pense qu'au bout de 20 minutes, et la foule qu'il y avait autour de lui, j'avais pas été parce que j'avais voulu avoir cette forme de respect un peu de l'athlète qui veut se prendre pour un athlète olympique normal. Mais c'est juste un être humain extraordinaire.
Tout le monde venait le voir au self.
Ouais. Au self, il a créé la cohue parce que tout le monde voulait soit la photo, soit le voir, soit l'autographe. Et une fois, je l'avais croisé, c'était très tôt le matin, je crois. Et du coup, il allait où il sortait du self.
C'était
donc, il a dû prendre le petit déjeuner
à Rio. À Rio.
Et il est assez grand, il a de la prestance, il a un certain charisme en fait, quelque chose qui se dégage quoi. Et on était, je sais plus, on était deux ou trois escrimeurs et les deux autres avaient pris une photo avec lui. Mais en fait, j'ai toujours cette gêne de
respect, vous
voilà, de me dire bon. Pour une fois qu'il est là, je vais pas le faire partir en courant.
Donc on a quand même des yeux un peu de gamin, même quand
bien
on
sûr
est athlète de haut niveau.
Bien sûr, j'ai croisé aussi Kevin Durant à Rio. J'ai pris une photo avec Rafael Nadal. Lui, il a joué le jeu assez facilement. Et je pense que du coup, en ayant fait plusieurs photos, il a dû avoir la paix au bout d'un moment on voit des sportifs exceptionnels et des gens qui inspirent de par leurs résultats et leur mentalité. Ouais.
Alors peut-être que je me trompe, mais je crois me souvenir qu'à Rio, le soir où vous êtes champion olympique, je crois que c'est le dimanche soir, et il me semble que c'est le soir où il y a la finale du 100 mètres de Bolt. Est-ce que vous vous en souvenez de ça ou pas ? Vous étiez tellement dans votre
Crois que Bolt, c'était le lendemain.
C'était le lendemain, parce que j'ai souvenir, après la finale, d'être parti au stade olympique. Et il me semblait que et d'être arrivé vraiment sur la finale du 400 avec le record de Van Niekerk. Et bon, on vérifiera.
Ouais, à vérifier, parce que je me dis qu'on a fait, la une.
Le lendemain, c'était la finale de Renaud Lavillenie de la Perche. Mais bon,
non,
c'est pas trop.
Ouais, il y a Lavillenie qui allait jouer le lendemain.
Et je crois que Bolt, c'était le dimanche. Mais bon, on vérifiera tout
ça. À vérifier, parce qu'on avait fait la une de l'équipe avec Charline Picon, de la planche à voile, qui est championne olympique le même jour. Et il y a Lavillenie aussi sur l'affiche. Je l'ai bien en tête, mais je ne crois pas qu'il y ait Bolt.
Bon, alors,
Me dis, Bolt champion olympique ce jour-là, on n'aurait pas... on aurait partagé la une avec lui, alors.
Vous parliez du fait que Usain Bolt vient des îles, vient des Antilles. La Guadeloupe, c'est une terre d'athlétisme. Il y a eu des immenses champions,
bien
des
sûr
immenses championnes. Évidemment, Marie-Josée Perret, Christine Aron. Pour les plus anciens, Roger Bambuc, qui avait été une star du sprint français dans
qui
les années 60.
Qui est très connu en
Guadeloupe. Ouais, qui est vraiment, qui a été ministre ensuite. L'athlé, c'est un sport que vous avez envisagé, auquel vous avez touché ou pas du tout ?
J'y ai pas touché, vraiment, non. J'ai très bien connu tous ces grands noms de l'athlétisme, dont Marie-Josée Perec en particulier, parce que c'était une athlète aussi assez timide, qui a eu pas mal de petits déboires avec la presse, de par son caractère, mais qui était très aimée en Guadeloupe, enfin qui l'est toujours, je pense. Et phénoménal aussi dans sa discipline, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un profil comme le sien, et puis on avait l'impression qu'elle volait sur la piste, et 400 mètres, on sait que c'est pas, c'est
ouais,
pas facile, quoi.
La gazelle.
C'est ça, la gazelle. Et,
vous la connaissez, Marie-Jo? Vous l'avez déjà?
Oui, ouais. je l'ai rencontrée après aux Étoiles du Sport, donc aujourd'hui, je peux dire que je la connais. Il y a beaucoup de grands sportifs, de grands athlètes en Guadeloupe.
Oui, c'est une terre de champions. Et en escrime notamment, il y a beaucoup de...
En escrime.
Vous avez une sacrée génération.
Voilà, Jean-Paul, Tony Elissée, Enzo Lefort, Isaura Tibus, Anita Blaze. Tellement de sportifs titrés. Daniel Gérant qui a été titré avec moi. Coraline Vitalis, enfin.
Et puis il y avait évidemment Laura Flessel.
Et Laura Flessel qui a, je pense, qui nous a tous servi de guide, entre guillemets, nous a montré en fait on peut être Guadeloupéen, venir d'une petite île, commencer en Guadeloupe, aller en métropole pour poursuivre sa formation, devenir champion olympique. C'est ce qu'elle a fait en 96, elle est double championne olympique, et ça, c'est, je pense que voilà, un jeune qui se lance dans un sport, il se dit ben, quelqu'un de ma région ou de l'endroit où d'où je viens peut s'imposer à un tel niveau de compétition, ben moi aussi,
pourquoi
j'aimerais bien.
Moi.
Voilà, pourquoi pas moi. Moi aussi, j'en rêve. Donc, un jour, peut-être que ce sera mon tour.
Alors, pour revenir à Usain Bolt, il y a le champion, évidemment, hors norme. C'est aussi une personnalité très charismatique, un showman qui en fait beaucoup, parfois trop selon certains. Mais je pense que ça a beaucoup contribué aussi à l'impact qu'il a eu sur le public. Sa personnalité, c'est quelque chose qui vous plaisait? Vous êtes assez différent, je pense, d'Usain Bolt.
Je suis différent du Usain Bolt. Après, je le rejoins peut-être sur le côté. Je peux être aussi assez charrieur, c'est-à-dire je vais beaucoup me vanter des fois qu'on joue. Des fois, je sais pas, je vais jouer au domino, ben avec mes potes, je vais me vanter, je vais dire c'est moi le meilleur, c'est des choses comme ça, quoi. Et surtout quand je gagne, là on m'entend, donc.
C'est plus facile de charrier quand on gagne.
C'est ça, c'est
alors,
ça.
J'ai lu. On vous surnommait pas Bolt, mais j'ai lu qu'on vous surnommait Zlatan.
Tout à fait, ouais.
C'est vrai.
Ouais, alors c'est surtout parce que au tennis ballon notamment, j'étais trop perso. mais Zlatan aussi parce qu'il est individuel, parce qu'il est grand, et je pense qu'il a aussi ce côté un peu charrieur. Donc ça, je l'ai toujours eu.
Il est moins souriant que vous quand même, hein, Zlatan. Hein.
Non, ouais, il est moins. Ouais. Moi, je suis plus. Lui, il est sur un terrain, c'est. Mais après, sur la piste, je suis pas souriant. C'est à la fin du match peut-être, mais dans le match je suis et puis le jour de la compète je suis pas du tout le même, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est particulier, mais voilà, mais Zlatan, c'est resté. Aujourd'hui on m'appelle Zlat.
Ah, toujours, donc c'est resté.
Ouais, c'est vrai, ouais, Zlat, ouais, c'est mon surnom. Ouais.
Bolt, est-ce que vous pensez que ces records peuvent être battus à court terme? Les 9,58 sur 100 mètres, 200, je crois que c'est 19-19.
19-19.
Voilà, qui était également à Berlin un an après les Jeux de Pékin. Donc ça fait bientôt une décennie qu'il a établi ces records. Lui n'est plus là. Ça vous paraît possible d'imaginer voir ces records tomber, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans?
Je pense qu'il faudra plus que ça.
Ouais.
Ouais, je pense qu'il faudra une nouvelle star, quelqu'un qui se surprenne avant de surprendre les autres, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur le circuit depuis un moment. Bolt, il a eu, je pense, cette insouciance d'arriver avec bourré de talent. Avec des défauts qu'il a dû corriger tout au long de sa carrière, notamment le départ, la posture, enfin, c'est des choses qu'il a travaillées, qui lui ont fait gagner des centièmes, des dixièmes, et puis jusqu'à des secondes. Et
il y a un potentiel, je pense, quand même aussi naturel, entre guillemets. C'est un talent.
Oui.
À 17 ans, il courait déjà. Il était autour de 20 secondes sur 200 mètres, ce qui est incroyable à cet âge-là.
C'est ça. Et il a eu un profil où on disait qu'il ne correspondait pas au profil des coureurs de 100 mètres.
Non, parce qu'il était très grand, et il faisait moins musculeux que
le prototype habituel. C'est ça, donc il a révolutionné aussi d'une certaine façon son sport. Donc il faudra attendre peut-être un nouveau profil où on dira ben non, il faut qu'il soit comme Bolt. Et puis ce jour-là, ben, ce sera un sportif totalement différent.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, ce n'était pas l'explosion, c'était le... ce côté un peu aérien.
C'est
Et
ça.
c'est vrai qu'il avait un profil très différent de ce qu'on avait pu connaître sur la ligne droite habituellement. Et sans doute que ça a aussi contribué d'ailleurs à la fascination qu'il a pu opérer
Bien sûr.
sur le public.
Et je crois aussi qu'il y a une étude de scientifiques qui disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de 9, je ne sais plus combien. Je
Oui,
sais
qu'il y
pas,
avait une
alors,
limite
il y avait
physiologique.
une limite
Et cela dit, il y a
physiologique.
50 ans, ce genre d'études nous disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de
En dessous de 10.
9,70. Non, non.
Voilà, donc aujourd'hui, il est descendu à 9,59. Et pourquoi pas? Moi, je rêve de voir un autre sprinter battre son record.
Et c'est vrai que quand Michael Johnson avait établi son record du 200 mètres à Atlanta, par exemple, 19,32, on pensait que ce record allait tenir 20 ou 30 ans. Finalement, il a tenu que 12 ans, donc on n'est jamais à l'abri du phénomène suivant. Ce côté phénomène, justement, dans un sport comme l'escrime, est-ce que il peut y avoir des prédispositions athlétiques ou est-ce que ça compte moins que dans... Ça compte forcément moins que sur 100 mètres, mais quelle est la part là-dedans par rapport à la technique, au travail
Je pense qu'il y a une certaine part. C'est vrai que moi, je suis assez grand, je fais 1,96 m.
Donc la
Par
longe, ça
contre,
aide quand même.
voilà, la longe, ça aide. Par contre, je fais 100 kilos, voire plus. Donc ça, on peut se dire, mais à l'escrime, il faut aller vite, il faut être explosif, il faut que je supporte mon poids. Mais en fait, j'ai des qualités, au final, d'explosivité qui sont, comment dire, qui peuvent être similaires à celles d'un profil plus petit ou moins costaud. Et aujourd'hui, la médecine a évolué, la préparation physique a évolué, toutes ces choses font que des athlètes de plus en plus grands arrivent à faire arrivent à des niveaux de performance qu'on ne leur aurait pas attribués il y a quelques années. Donc, qui sait comment il sera le sportif, comment dire, le sportif
De demain.
de demain? On ne sait pas vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui le montre le mieux, c'est LeBron James. Il paraît que c'est le sportif le plus puissant du monde et je veux bien le croire parce que c'est vraiment un monstre. Et ce qu'il fait sur un terrain, je crois qu'il fait 2,03 m, il doit faire 120 kilos. La vitesse qu'il met, et la longévité, le cardio, enfin, c'est impressionnant. Et puis la puissance, c'est-à-dire que il n'est pas pataud. Pour quelqu'un qui a ce profil, on se
Ouais.
dirait qu'il pourrait être un peu trop ancré dans le sol. Non, il vole, quoi.
Il n'y a rien.
Il est très aérien. Et voilà. Et avant, c'était Michael Jordan. Je crois qu'il fait 1,96 m.
98, ouais.
98, 96 pour 95 kilos. Au moment où il était le plus
Au moment
au
de sa
sommet de sa,
carrière,
ouais,
ouais.
au sommet de sa carrière. Donc voilà, ça évolue. Je pense que l'homme et le sportif est capable de casser des limites, de casser des barrières. Tant qu'on s'en met pas, on ne sait pas de quoi il sera fait demain. Ouais.
Bon, alors on a parlé d'Usain Bolt, on a parlé un peu de LeBron James et d'autres. On va parler maintenant d'un autre sportif qui a dominé son sport, qui a marqué son sport et même sans doute au-delà. Dans la troisième et dernière partie d'Eurosport Confidential, c'est parti pour mon idole. Mon idole, troisième partie, troisième rubrique d'Eurosport Confidential. Et alors là, j'avoue, j'ai été un peu surpris, Yannick, de votre choix, parce que c'est pas un sportif de votre génération. C'est un sportif que vous n'avez même peut-être pas connu du temps de sa carrière. C'est un boxeur. C'est l'ancien champion du monde des poids lourds, Mike Tyson.
C'est ça, Mike Tyson. Pourquoi? Parce que j'aime la boxe. Je trouve que c'est un sport en fait noble, même si il a beaucoup changé. Et en fait, on est dans une période où on aime les showman, on aime les gens qui provoquent un peu. Mais j'aime la boxe et j'ai toujours suivi aussi cette catégorie de poids parce que forcément, je fais plus de 100 kilos, donc les poids lourds, ça m'a toujours un peu intéressé. Je m'identifie un petit peu, même si je ressemble pas du tout à un
Ah,
boxeur. Je suis
plus qu'au
plus.
poids coq ou au poids plume.
Ouais, plus qu'au poids. Mais même si ça peut être. Il peut y avoir de très bons matchs dans ces catégories-là, mais je sais pas, la catégorie poids lourd a toujours plus impressionné, et moi en tout cas. Donc pourquoi Mike Tyson? Parce que je trouve que c'est aussi un des sportifs qui a révolutionné la boxe. Parce qu'il n'avait pas le profil non plus. Petit, très très costaud, trapu et hyper rapide. Et alors que celui qui dominait la catégorie avant, c'était Mohamed Ali, qui lui était plus lent, qui prenait plus de temps à user son adversaire pour finalement le mettre KO. Mike Tyson, il arrivait sur un ring en un round, il mettait KO l'adversaire, quoi. Et avec une débauche d'énergie incroyable, c'est-à-dire que l'autre, il était submergé par les coups, par l'agressivité et par sa détermination. Et de voir comment il traduisait cette hargne, cette envie, cette rage de
Ah,
vaincre.
c'était une explosion au coup de gong, ouais,
C'est ça,
Tyson. Il
quoi.
se
C'est ça. Et
ruait
puis.
sur son adversaire. Alors, quand et comment vous avez découvert Tyson? Après, vous êtes né en 1988,
C'est ça.
on est vraiment au cœur du règne de Tyson, qui devient champion du monde des lourds en 86. Il va perdre son titre en 1990, la surprise générale. 88, il est vraiment au sommet de sa gloire. Il bat Michael Spinks au premier round lors du championnat du monde au mois de juin, alors que c'était vraiment le combat de l'année, le combat le plus attendu. Il le détruit en 90 secondes.
34 consecutive victories with 30 knockouts, including 26 KOs in 5 rounds or less, and 15 in the first round alone. Ladies and gentlemen, presenting the undisputed, the undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson!
Vous avez pas connu ça.
Non,
Donc,
non.
quand est-ce que vous l'avez découvert, Tyson, et comment?
Je l'ai découvert en m'intéressant aux boxeurs d'avant et bon bah, par ses déboires aussi avec la justice et bon en discutant un peu avec mes amis on me dit mais tu sais c'est le plus grand boxeur de l'histoire quoi. Certains le pensent, d'autres non, d'autres vont dire que c'est Ali. Alors je me suis intéressé à ses combats et je suis allé chercher sur internet quoi, tout simplement les
D'accord.
combats de Mike Tyson. Et aujourd'hui aussi, il y a des documentaires qui font que. Et puis, il y a des documentaires de Mike Tyson, notamment le dernier. Je ne pourrais pas vous donner le nom,
Ouais,
mais
je
il est
crois
sur,
sur Netflix,
il est
je
sur
crois.
Netflix. Ouais, et puis,
Ouais, à voir, effectivement,
et
où il
vraiment,
témoigne
ouais.
dedans
Et
et
son
c'est assez
parcours,
fort.
c'est-à-dire que c'est un enfant de
Du Bronx.
du
Ouais.
Bronx, donc du ghetto, quoi. Qui à la base dit qu'il est un peu apeuré, quoi. Il s'est jamais battu, il a peur de se battre. Il se bat parce qu'il est obligé un jour, je crois qu'on lui tue un de ses oiseaux, un truc comme ça. Et il se bat, il met une raclée à l'autre et il se dit, ce jour-là, il se dit, on ne va plus jamais se moquer de moi, on ne va plus jamais me manquer de respect, je vais me battre pour ça. Et derrière, il continue ses combines parce qu'il est dans un monde aussi qui veut ça. Et c'est la facilité. Et ce que j'aime aujourd'hui avec ce sportif, c'est de voir qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait dans le passé et il arrive à prendre de la distance et se dire aujourd'hui, voilà, je suis plus comme ça, je suis un autre. Et montrer de la maturité peut-être assez tard, mais tout lui est arrivé tellement tôt.
Oui,
C'est-à-dire
il est devenu
que
champion du monde à
à
20
20
ans,
ans,
Tyson.
c'était du jamais vu, c'était voilà,
Et
c'est.
il le dit très bien, je conseille à tout le monde de lire l'autobiographie de Mike Tyson, qui est vraiment formidable, et notamment pour toute la partie de son enfance, de son adolescence, sa rencontre avec Cus D'Amato, qui est
D'Amato,
vraiment
son
l'homme
mentor. Ouais.
qui va le construire en tant que boxeur et qui va être presque son père de
Bien sûr.
substitution. Et la mort de Cus D'Amato, juste au moment où Tyson devient champion du
Où il perd
monde,
tous ses repères, en
voilà,
fait.
il n'a plus aucun repère, et je pense que derrière, tout ce qui lui est tombé dessus a fini par le dépasser
C'est ça.
complètement.
Et il est plus cadré, c'est-à-dire que Cus D'Amato le cadrait,
Ouais.
dans un sens, c'est.
Et lui, il lui donnait un point de repère.
Voilà, et une fois qu'il est parti, voilà, il a recommencé à déconner. Et il le dit quand il perd la première fois son titre de champion du monde, il dit je m'étais pas pris au sérieux, je
Ouais, il
m'amusais
n'était
tous les
pas du tout.
soirs, même mon adversaire. Enfin, et en fait, dans le discours de Tyson, on retrouve beaucoup de choses qui nous préparent mentalement à une compétition. Dans tous les sports, je pense qu'il parle de confiance. Il parle de peur de perdre, mais plus il s'approche du ring, plus il est confiant, plus il se sent un tueur. Une fois qu'il est sur le ring, c'est un tigre, quoi. Il peut manger n'importe qui, donc.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et C'est moi ce qui me fascinait chez Tyson, et on a découvert après coup. Moi, je me souviens, j'étais gamin, mais je me souviens des combats de Tyson. Et on ne savait pas à l'époque tout ce qu'était sa vie en dehors
C'est
du
ça.
ring. Et quand on a su tout ça, ce qui est fascinant, c'est la différence entre ce qu'il était sur le ring, cette certitude, cette envie de tout casser,
Tous les doutes qu'il
et voir
avait.
qu'il était complètement perdu en fait en dehors du ring. C'était assez incroyable. Et c'est vrai qu'on le sent, entre guillemets, peut-être plus apaisé aujourd'hui qu'il ne
C'est
l'était
ça,
du temps de
c'est
sa
ça.
carrière, paradoxalement. Vous
Non,
avez des
ça
souvenirs de
me.
combat de Tyson? Enfin, des souvenirs dans ceux que vous avez revus derrière, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres ou pas?
Non, franchement, c'est la faculté qu'il avait de transformer la boxe des poids lourds. C'est-à-dire que avant, un boxeur, un poids lourd, il rentrait, il prenait sa distance. Voilà, il prenait le temps de jauger l'adversaire, ses réactions. Lui, il y allait comme s'il savait qu'en le cognant, il allait le faire tomber. Et en fait, il disait même lui-même, il dit avant mes matchs, je le regarde dans les yeux, je le fixe. Si jamais il baisse les yeux, j'ai déjà gagné une partie de mon combat. Et je pense que ça, on peut le retrouver dans d'autres disciplines. Et donc, il rentre sur le ring, il le harcèle, littéralement.
Ah ouais.
Il harcèle
Ouais,
son
il
adversaire.
agresse vraiment son adversaire.
Il
Et
tombe une première fois, il peine à se relever. La deuxième fois, il peut plus se relever. Et je pense que les boxeurs, à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts. Avoir un boxeur aussi, comment dire, aussi agressif d'entrée, qui n'est pas peur de prendre le coup, l'hypercute qui allait le faire tomber KO. Il n'a pas peur, il sait qu'il est confiant, il est sûr de lui, il y va et puis il va gagner son match, quoi.
Et c'est vrai que Tyson, vous en parliez, Yannick, avait un gabarit assez atypique pour les poids lourds. Il n'était pas très grand, en tout cas pour un
Pour un
boxeur.
lourd, ouais.
Donc il n'avait pas une allonge énorme, il n'avait jamais cet avantage-là. Ce qui explique aussi sans doute sa façon de
De
boxer
boxer, ouais.
très très agressive. Et il y avait quelque chose de presque palpable quand on était devant sa télé en regardant un combat de Tyson. On ressentait cette agressivité et cette furie qui se dégageait sur le ring. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais ressenti ça avec aucun autre poids lourd et même sans doute aucun autre boxeur. Peut-être un peu Marvin Hagler, mais chez les moyens, mais qui avait un côté plus technicien.
Même parce que même aujourd'hui, Joshua, il a pas, on le sent pas effectivement de la même façon. Même
Ouais.
s'il est hyper dominateur, on sent pas cette
Oui, il
fac.
domine
Ouais,
différemment,
il
c'est très
domine
différent.
différemment. Voilà, c'est ça.
Vous faites de l'escrime, est-ce que vous considérez que vous faites un sport de combat?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que dans le discours de Tyson et dans sa façon d'aborder ses matchs. Ça, je le retrouve dans mes compétitions et je m'en inspire. C'est-à-dire que je vais pas faire les mêmes choses que Tyson, mais il y a des choses que je peux repérer. C'est-à-dire que si je suis dans un match et que mon adversaire, je sais pas, même après une touche, va regarder à côté, va regarder dans les gradins ou la piste à côté ce qui se passe. Je sais que j'ai déjà eu une petite victoire parce que il est déconnecté du match. Donc soit il cherche de l'aide à côté, soit il est perdu. Enfin, à un moment il s'est déconnecté. Et ça m'aide à me dire bon, appuie là où ça fait mal et ça va payer. Et je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà
D'accord.
vécu.
Vous parliez à propos de Tyson, de l'avant-combat, le fait que la façon dont il regardait son adversaire, d'une certaine manière, il avait parfois presque déjà gagné le combat avant qu'il commence. C'est quelque chose qui existe en escrime, ça vous captez, vous cherchez le regard de l'adversaire avant de rentrer sur la piste, parce qu'après vous avez votre masque,
C'est ça. Et
vous êtes
on
plus
se
tout à
voit
fait
plus réellement, non.
dans le même rapport. En revanche, avant le combat, c'est avant l'assaut, c'est possible.
C'est très personnel. Il y a des tireurs qui, même à l'entraînement, ne regardent pas dans les yeux, qui sont peut-être tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne regardent pas. Mais moi, j'ai ce truc où je regarde mon adversaire dans les yeux.
Vous cherchez de
Je
l'information
cherche une
ou vous voulez
information,
imposer
voilà.
quelque chose?
Je
Non, vous
cherche
cherchez.
plutôt une
D'accord.
information. Et si je peux sentir soit de la crainte, soit un excès de confiance. Et dans les deux cas, ça peut être en ma faveur. Après, je peux aussi voir quelqu'un de déterminé. Ça peut m'alerter. Je peux voir quelqu'un qui veut se venger. ça peut arriver parce que je l'ai battu avant.
Donc il y a toujours quelque chose à tirer
je pense que dans un sport de combat, il y a toujours quelque chose à tirer du regard d'un adversaire. Ouais. On peut sentir soit de l'inquiétude, de la peur, de la crainte, soit une trop grosse confiance en soi, soit c'est des choses qui peuvent toujours aider pour un combat, ouais, c'est sûr.
Le fait que l'épée soit un sport, une arme, pardon, parce que c'est pas une arme de convention, comme on
c'est,
dit.
Non, c'est pas une arme de
Donc
convention.
Donc le premier qui touche a gagné, il n'y a pas de priorité, contrairement à l'escrime ou au sabre. Est-ce que ça rend...
Oui, au fleuret.
Oh, pardon, j'ai dit quoi?
À l'escrime, tu as dit au fleuret.
À l'escrime, au fleuret et au sabre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une question de priorité. Ce qui n'est pas c'est le cas ça. À l'épée, on touche, on marque un point, soit tout seul, soit à deux, si les deux touchent. Est-ce que cela renforce justement ce côté duel encore, ce côté très brut de l'épée? On touche, on a gagné.
Moi, je pense que oui. Je pense que... Parce que c'est l'esprit de l'escrime, c'est toucher sans se faire toucher. Et à l'épée, c'est encore plus criant, parce que si on touche tous les deux sont touchés et... C'est-à-dire que si je mène un match 14-13, il y a une touche double, 15-14, c'est fini. C'est-à-dire que même si l'autre a touché, même s'il a eu raison dans l'action qu'il a menée, si je touche en même temps, on est tous les deux, c'est entre guillemets, on est tous les deux morts, quoi. On peut pas dire qu'on a touché en même temps, mais il y en a un qui a plus raison que l'autre.
Ah, il n'y a pas de raison à l'épée, on touche pas.
Voilà, ouais. Et je pense que... Il y a eu plusieurs tireurs qui ont un peu aussi changé la façon de tirer dans notre sport. Je pense notamment à Hugo Bry qui a amené une part plus, comment dire, plus physique. Plus, il a amené ce truc un peu plus d'agressivité, ouais. Un peu plus de harcèlement sur l'adversaire. Et aujourd'hui, on sent que l'épée notamment, il y a beaucoup plus d'engagement physique. Et on voit les profils sont de plus en plus... Voilà, plus d'un mètre 80,
comme le vôtre, ouais,
80 kilos minimum. Enfin, après, il y a d'autres profils plus petits. Le champion olympique en 2016, il n'est pas très grand. Il doit faire moins de 80 kilos. Enfin, il a 20 ans. Lui aussi, il a cassé toutes les règles. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une arme de maturité. Ouais. Alors, au final, il a percé très jeune. Et on dit que c'est une arme pour les grands. Au final, il n'est pas très grand. En fait... C'est ça aussi la magie de l'épée, c'est que n'importe qui peut s'en sortir avec son profil et avec ses forces. Et j'ai appris aussi à analyser mes adversaires, à analyser leurs forces, leurs faiblesses, et me dire aujourd'hui, si je veux gagner, il faut que je le fasse sur mes forces, quoi. Il faut que je le fasse avec ce que je sais faire de mieux. Et depuis, ça marche très bien.
Alors, pour reparler de Mike Tyson, vous avez choisi d'évoquer des sportifs... Bolt, Tyson, qui ont des très très fortes personnalités, très différentes pour le coup. En tant que fan de sport, que spectateur ou téléspectateur, c'est quelque chose qui vous attire, ça aussi, la personnalité autant que le champion en lui-même?
Bien sûr, on s'intéresse toujours à l'artiste ou au sportif, mais aussi à la personne qu'il est dans la vie de tous les jours. Et mine de rien, ce sont pas que des gens qui ont un caractère et qui... C'est pas que des mauvaises têtes, c'est aussi des gens qui peuvent être sympas, souriants. Enfin, souvent, on sent pas chez eux des gens détestables, quoi.
Tyson, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui a été englouti par tout ce qui lui est tombé dessus, la gloire, l'argent, les femmes. Il a, que ce soit sa vie privée ou son argent, il n'était pas du tout prêt à gérer tout ça. Il a découvert tout ça d'un seul coup. C'est quelque chose, vous, qui aurait pu vous faire peur, la gloire à l'extrême comme ça et tout ce qui va à côté?
Alors, mais Tyson, il n'était pas entouré. Il n'était pas entouré. Je crois que sa mère n'était pas non plus... c'était pas quelqu'un...
Oui, il était tout seul. Ouais.
Voilà, il était tout seul.
En tout cas, après la mort de Cus D'Amato, clairement, il était...
Voilà, donc il était mal entouré, en tout cas. Il y avait peut-être aussi beaucoup de gens qui en voulaient à toutes ses richesses, son argent et tout ça. Lui-même avait un rapport très particulier avec ça parce qu'il n'en a pas eu. Ensuite, en tant que dealer, il en a eu. Puis en tant que boxeur, ben, ça lui est tombé dessus. Et puis, au final, je pense qu'à cet âge-là, on est millionnaire à 20 ans. 3 ans avant, on dormait dans un HLM. quand ça nous tombe dessus d'un coup comme ça, et puis tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde parle de lui, et toutes les femmes s'intéressent à lui, je pense qu'il a, il a dû avoir beaucoup de bouleversements dans sa vie en un espace très réduit. Et puis, à 20 ans, on est encore très jeune. On a encore besoin, peut-être des fois, d'être guidé. Et il a sûrement dû mal, très mal gérer ça. Aujourd'hui, ça arrive à tellement de jeunes, c'est-à-dire dans le monde professionnel, entre guillemets, donc le foot, le basket, le golf, le tennis, qui sont suivis. Ils sont souvent entourés, ils sont conseillés aussi pour faire des placements, et ils ont conscience, voilà, de ce qu'est l'argent, la valeur de l'argent.
Ils sont sans doute globalement mieux préparés, voilà, même si c'est pas toujours simple pour autant.
Je pense pas que ce soit simple non plus, mais...
Mais l'entourage compte beaucoup.
Si on compare un sportif actuellement, on va comparer avec Mbappé, même si c'est pas le même sport, même si c'est pas le même profil, mais je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent. Il attire toutes les convoitises, et pourtant il est entouré par sa famille, donc son père, on sait que son père est très proche de lui, et on sent que voilà, c'est quelqu'un qui est hyper mature, mais parce que je pense qu'il a déjà été prévenu de tout ça par ses proches, en fait.
Oui, il était sans doute mieux préparé.
Ouais. Mieux préparé à... Même Neymar, on voit que... C'est pas quelqu'un qui va se foutre en l'air, entre guillemets.
Dernier mot, vous parliez de Joshua tout à l'heure. La boxe, c'est un sport que vous continuez de suivre, et notamment les lourds, où vous êtes un petit peu moins accro aujourd'hui devant ce qui est devenu la boxe. On a l'impression que Tyson est quand même le dernier géant des poids lourds. Il y a un avant, un après Tyson. Quand même.
J'ai l'impression. Après, c'est vrai qu'il y a eu le passage des frères Klitschko. Qui je pense va rester dans l'histoire de la boxe quand même. Mais c'est vrai que cette boxe, en fait, je sais pas, c'est comme si s'il y avait une boxe avant, il y avait la boxe avec Tyson et la boxe de maintenant. On a l'impression qu'ils gèrent bien mieux leur carrière, et que les risques sont calculés, voilà, les risques sont beaucoup plus calculés aujourd'hui. Après, peut-être pas, hein. Mais j'ai l'impression que ouais, il y avait la boxe à l'époque de Tyson. Il y a eu une nouvelle boxe qui est née derrière.
Et puis la fascination que crée la boxe et que créent les boxeurs, elle tient à ce qui se passe sur le ring, mais elle tient aussi à ces personnages qu'ils sont, avec tous leurs excès.
Bien sûr.
C'est aussi ça qui contribue à la fascination.
Mais ça va revenir, je pense. Je pense que ça va revenir. Et puis, il y a Joshua, mais il y a Yoka aussi. Il y a Tony Yoka qui je pense, vu son, comment dire, son amour de la compétition et sa détermination aux Jeux Olympiques pour être médaillé d'or, il a tout gagné. Hein. Jusque-là, il a tout gagné. Il a été champion olympique au JO de la jeunesse. Il a été champion olympique
à Rio.
Maintenant, il est passé dans le monde professionnel. Bon, il a quelques difficultés en ce moment, mais sa carrière est devant lui, quoi.
Ouais.
Et j'aimerais bien voir un Yoka Joshua, moi. Ça, franchement, même dans 5-10 ans, ça me plairait beaucoup.
Ouais. Bon, et peut-être dans les années à venir, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et puis vraiment, pour ce qui est de Mike Tyson, ben, revoyez ses combats, revoyez des images. Ouais, souvent, c'est pas très long en plus, donc ça vous prendra pas beaucoup de temps. Et lisez son autobiographie qui est saisissante, et effectivement le documentaire dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick.
Merci.
Merci d'être venu dans ce numéro d'Eurosport Confidential. Et puis on vous souhaite une très belle saison prochaine et d'aller chercher un nouveau titre mondial. Merci beaucoup Yannick, encore une fois, et à très bientôt. Au revoir.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.